I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Nous allons parler de Mars et de Spirit Opportunity, Mars Express, les engins qui, depuis quelque temps, explorent, observent et sondent cet autre monde, en compagnie de notre invité François Forget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes François Forget, chargé de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous avez été détaché à la NASA en Californie pendant 2 ans et vous êtes membre de l'équipe scientifique de la sonde européenne Mars Express. Cela fait 3 ans que Spirit, la petite sonde américaine, le petit robot américain, s'est posé à la surface de Mars. C'était en janvier 2004. Pourquoi ça marche encore ?
Ah, ça marche encore parce qu'il y a à la fois une combinaison de chance, un petit peu, pour certains facteurs. Par exemple, ce sont des robots qui fonctionnent à l'énergie solaire. Et on pensait, à l'époque où on a conçu les robots, que leur durée de vie serait limitée parce que peu à peu, les panneaux solaires allaient accumuler de la poussière à leur surface et que peu à peu, bah, y aurait moins en moins d'énergie solaire qui parviendrait aux robots. Et puis en fait, régulièrement, il y a une petite rafale, une petite tornade même, qui passe au-dessus du robot et qui nettoie les panneaux solaires. Donc, il y a un petit peu de chance, mais il y a surtout beaucoup de, je crois, de savoir-faire. C'est quand même un petit bijou technologique avec plein d'astuces dans la programmation du programme de vol, la redondance dans le matériel. Et il y a énormément de savoir-faire tout simplement de la NASA qui a été mis là-dedans. Et le plus extraordinaire, en fait, si on commence l'histoire finalement, c'est que Spirit Opportunity ont été créés de manière assez rapide. Ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'on a eu, si on revient en arrière, si on revient il y a 10 ans par exemple, si on avait eu une discussion il y a une dizaine d'années, en 98-99, on était dans un programme martien tout à fait différent et qui ne comprenait pas du tout Spirit Opportunity. On imaginait qu'on allait faire un retour d'échantillon à partir de 2003-2005. On avait plein de sondes spatiales qui étaient prévues, des atterrisseurs, des sondes en orbite. Et puis, en 99, il y a eu un bouleversement. C'est que toutes les sondes qui étaient envoyées vers Mars cette année-là par la NASA, en septembre 99 et en décembre, se sont écrasées ou ont brûlé dans l'atmosphère en arrivant. Et c'était vraiment une catastrophe. Et de ces cendres, après réflexion, est né un programme qui se voulait un peu spectaculaire, donc des rovers, quelque chose qui allait se promener, un programme relativement sûr pour ne plus répéter un tel échec, donc avec tout en double, 2 fusées, 2 vaisseaux spatiaux entre guillemets et 2 robots à la surface. Et tout ça est né donc en juillet, je me souviens, en juillet 2000. Et il est en moins de 3 ans, les ingénieurs de la NASA, en particulier les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory en Californie, qui est le laboratoire de la NASA qui a vraiment construit pour le coup les rovers, ont créé ces rovers. Et je dois avouer que je connais un tout petit peu des gens de l'équipe, c'est quand même un chef-d'œuvre qu'ils ont fait en si peu de temps, et ça s'est pas fait sans angoisse, hein. C'était très difficile.
Alors, 3 ans, c'est pas beaucoup pour construire ces 2 rovers. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé, beaucoup d'argent a été mis sur la table pour réussir cette expérience, cette mission. Qu'est-ce qui est difficile à faire quand on fabrique 2 robots automatiques qui vont aller caracoler à la surface d'une planète à 70 millions de kilomètres d'ici ?
Oh, tout est difficile. Tout est difficile, en particulier sur quelque chose que l'on déteste. Moi, je connais plus finalement dans le travail que j'ai pu faire, je connais plus ce que l'on met à bord des satellites en orbite. Déjà, c'est pas facile. Et les satellites en orbite, ce que l'on déteste absolument, c'est tout ce qui est partie mobile, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est roues, bras, etc. Et les rovers, par définition, les robots sont bourrés de pièces mécaniques qu'il faut lubrifier, ce sont des moteurs qu'il faut tester, qui doivent marcher des millions de fois. Là-dessus, vous ajoutez un petit ordinateur, bah, vous le savez tous, ça bug, hein, par nature. Personne n'a jamais vu un ordinateur qui n'a pas un petit bug qu'il faut pas rebooter de temps en temps. Alors, quand c'est à distance, on peut pas y aller débrancher la prise. Alors, on a d'autres astuces. Et donc, cette combinaison-là de parties mobiles mécaniques avec de l'énergie, des batteries. Batteries aussi, c'est un problème. Il faut les maintenir à température, etc. Et puis, d'électronique partout. rend ce projet-là très compliqué, tout comme les autres projets spatiaux, mais ces petits robots dans un environnement avec de la poussière, etc. C'était vraiment des petits chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre technologiques du début du XXIe siècle.
Ouais. Avec des choix technologiques, par exemple, se poser sur Mars, c'est pas nécessairement quelque chose de facile si on veut pas s'éclater. La technique choisie par les Américains, c'est celle du parachute et de l'airbag dans une atmosphère très ténue. Se poser en douceur, c'est pas facile.
Oui, c'est assez difficile. Alors là, pour le coup, c'est un peu un de mes dadas, puisque je m'occupe beaucoup de prévoir, entre guillemets, la météo, enfin, en pratique, la densité de l'atmosphère pour les lieux d'atterrissage, notamment de Spirit et d'Opportunity, et de Beagle 2, malheureusement, qui est un exemple de sonde qui ne s'est pas posée. Alors effectivement, l'atterrissage, ce qu'on appelle l'EDL, Entry Descent Landing, l'entrée dans l'atmosphère, donc c'est protection avec un bouclier. Alors on connaît tous des exemples, à commencer malheureusement par Columbia, qu'il suffit d'une petite faille dans le bouclier pour que tout explose. Ensuite, la descente sous parachute, quelque chose de très difficile. Un exemple, c'est que le parachute de Spirit Opportunity a subi de nombreux échecs lors du développement. On a essayé plusieurs dizaines, j'exagère peut-être un peu. Ils sont tous déchirés ou explosés. Et au moment où on a dit, bon, celui-là, il faut qu'il marche, sinon on est obligé de retarder le lancement de 2 ans. On l'a lancé, c'était un centre où j'ai beaucoup travaillé, à NASA Ames, il y a une grosse soufflerie. Il a marché, on dit, bon, allez, c'est bon, on prend celui-là, on n'a pas le temps d'essayer autre chose, on prend celui-là. Donc c'était vraiment difficile. Ensuite, évidemment, si on arrive simplement sous parachute, on a beaucoup de problèmes. D'abord, il y a le choc vertical, c'est-à-dire, quand on descend sous parachute, on arrive quand même à une certaine vitesse. Et puis surtout, la vitesse horizontale, puisqu'on descend entraîné par la vitesse du vent. Même si l'atmosphère est ténue, le parachute, lui, est entraîné par le vent, comme un ballon, comme un parachute. Et le vent est assez rapide, les vents sont assez forts sur Mars. Et donc, on va facilement arriver vraiment en biais ou avec une forte vitesse horizontale à la surface, ce qui pose des problèmes. Alors, pour ça, il y a eu 2 astuces qui ont été utilisées sur Spirit Opportunity. La première, c'est que on a essayé de mettre des rétrofusées pour stopper le déplacement horizontal avant le choc. Et puis d'autre part, effectivement, c'est cette méthode d'airbag. Alors en fait, la méthode d'airbag avait déjà été utilisée pour une première sonde qui s'appelait Pathfinder, qui avait été développée, qui est arrivée sur Mars en 97, le 4 juillet 97 pour la fête nationale. J'allais dire Cocorico, non. Bravo Oncle Sam. Ces airbags, en fait, ce qu'on voulait faire, l'astuce, quand on a dit on a 3 ans, en 3 ans il faut qu'on réussisse des robots qui vont aller sur Mars, ce que la NASA avait comme pour idée, c'était de reprendre le même système de descente, les mêmes boucliers, même parachute, même airbag que pour Pathfinder, qui avait prouvé qu'il fonctionnait, et de les mettre pour les rovers. Et on s'est dit, en 3 ans c'est faisable, et on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait pas faire des rovers suffisamment petits, et c'est là où étaient vraiment les grandes sueurs froides de toutes les équipes, c'est qu'il a fallu redimensionner le bouclier, les parachutes et les airbags, et donc on avait fait des super airbags, et d'après les ingénieurs de l'équipe des rovers, ces airbags sont maintenant à la limite de la technologie. Les rovers eux-mêmes font 180 kg, il faut ajouter ça l'étage d'atterrissage qui doit peser bonne cinquantaine ou plus que ça de kilos, et on pense que c'est le maximum. Donc pour les futurs atterrisseurs de la NASA et aussi éventuellement européens, on va utiliser d'autres techniques parce qu'ils sont plus lourds, à commencer par exemple le prochain rover de la NASA s'appelle Mars Science Laboratory. Il va peser 600 kg à comparer aux 180 kg des rovers de Mars Exploration Rover, Spirit Opportunity.
Alors, le 3 janvier 2004, donc, Spirit se pose dans le cratère Gusev sur Mars. Les premières images sont quasi immédiates. On a vraiment la certitude que tout se passe bien. On avait localisé avec précision le lieu d'atterrissage. C'était aussi une étude de savoir où on allait le poser. C'était pas au hasard.
Ah oui, le choix des 2 sites d'atterrissage avait été le fruit d'un long travail par très nombreux chercheurs, à l'occasion de nombreux ateliers, de meetings, etc. Et alors, on avait décidé donc un premier site, le cratère Gusev, parce qu'il était particulièrement intéressant. On pensait qu'il pouvait contenir des indices sur un passé très lointain de la planète Mars, un passé pour lequel on pense qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars, quasiment 4 milliards d'années. Alors, ce cratère Gusev, effectivement, est situé à l'embouchure d'une espèce de grande vallée actuellement sèche, mais une vallée fluviale qu'on appelle Mad Imvales, qui semble avoir été le site d'un écoulement à partir d'un autre gros lac, très grand lac, qui est largement plus au sud, qui s'est écoulé dans le cratère Gusev. Et dans le cratère Gusev, on voit des, pas là malheureusement où est atterri Spirit, mais un peu plus au nord, disons au nord, on voit plus au sud plutôt, on voit une couche, des sédiments, des collines formées de sédiments, apparemment des sédiments entre guillemets lacustres, donc qui auraient été formés en présence d'eau, et c'était vraiment extrêmement motivant. Donc du point de vue de l'image, du relief, le meilleur site sur Mars, c'était donc ce cratère Gusev, certainement un ancien lac.
Et pourtant, dès que les premières images arrivent, les géologues discrètement se disent déçus parce qu'ils semblent n'apercevoir que des basaltes qu'on trouve sur Terre, évidemment, et ne pas avoir l'impression que le site a géologiquement beaucoup d'intérêt.
Alors absolument, tout autour, rapidement, donc vraiment Spirit, c'est un robot géologue, c'est-à-dire qu'il est surtout équipé de caméras, de détecteurs, mais c'est avant tout un robot capable d'abraser une roche, de creuser dans une roche, de regarder sa composition, il ne fait que ça. Donc c'est à la base un robot géologue, et en particulier il est capable de détecter et d'analyser la nature, grosso modo, des roches. Et on découvre effectivement que des roches volcaniques, des basaltes, des laves. On se rend compte rapidement qu'on est sur une ancienne coulée de lave, alors qui a été refaçonnée par l'histoire, mais on voit que des roches volcaniques. Alors bon, évidemment, effectivement, c'est un peu une déception. On n'a pas trace, tout simplement, on n'a pas trace de l'eau qui a pu couler là il y a 3 ou 4 milliards d'années. Malgré tout, je dois avouer qu'à l'époque, quand on suivait cette affaire, on voyait, on a quand même, c'était quand même extraordinaire, parce qu'on a commencé à rouler à la surface de Mars, et en particulier rapidement Spirit a pu rejoindre un cratère qui n'était pas très loin, qui s'appelle le cratère Bonneville. Alors sur le site de Spirit, tous les cratères ont le nom de lac. Alors il y a un lac qui s'appelle Bonneville, c'est aussi le nom d'un des dirigeants du CNES, qui s'occupe des sciences de l'univers, mais ça, c'est pas en son honneur malheureusement. Et donc moi je me souviens que c'est la première fois de ma vie que je voyais un paysage. Jusqu'à présent, on avait vu des grandes plaines. Évidemment, on atterrit toujours dans des endroits très plats, avec des cailloux. Bon, c'est extraordinaire, mais ça fait désertique. C'est un reg. Un reg, c'est magnifique, mais c'est un peu... Et alors là, Spirit est arrivé au bord de ce cratère. Il y avait un trou, des petites falaises. Moi, j'ai déjà trouvé que c'était extraordinaire. Malheureusement, du point de vue scientifique, minéralogique, qu'est-ce qu'on voyait là ? On voyait des basaltes, de la lave, etc.
Alors, il y avait d'autant plus de déceptions que, assez rapidement, Spirit bug. Les problèmes informatiques dont vous parliez tout à l'heure se produisent quelques jours après qu'il se soit posé. On dit qu'il est carrément en panne quelques jours après qu'il se soit posé. Oui, c'est des marbales.
Le 18e jour, c'est un jour... tout simplement, on a perdu le contact. Et là, on revient dans des histoires un peu légendaires de la NASA où on a... Il est arrivé dans le passé qu'on perde le contact avec des sondes légendaires comme Voyager ou même Viking. Et donc là, on perd le 18e jour tellement vite le contact avec Spirit. Et il a vraiment fallu... Il faut lire les détails de l'histoire et connaître un peu les gens. Il a vraiment fallu beaucoup d'astuces pour récupérer le rover. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une petite mémoire annexée à l'unité centrale du rover qui ne fonctionnait plus, et ça a déclenché en fait, à chaque fois que le rover se réveillait, la mémoire ne fonctionnait pas et elle rebootait. Donc le rover rebootait en permanence comme un ordinateur, on peut imaginer très bien, et c'était tout simplement ça, hein. Le rover c'est un vague PC, c'est rien d'extraordinaire. Mais alors il a fallu envoyer une commande en disant n'utilise plus ta mémoire. D'ailleurs ça reste pour moi extraordinaire que quelqu'un ait pu programmer une commande. Il y a 10 000 commandes qu'on peut envoyer, et il y en a une qui dit n'utilise plus cette mémoire, elle est peut-être cassée. Réponse, oui, elle est cassée, je ne l'utilise plus, et on a pu peu à peu le récupérer. Alors c'était finalement, c'est le 18e jour, et depuis on n'a pas eu d'aussi grande frayeur sur les deux rovers.
Alors démarrage difficile, on le comprend, et puis la sonde était faite pour durer 3 mois. Dès les premières semaines, alors les premières découvertes se font. Aujourd'hui, quand on a plus de 3 ans, presque 3 ans en tout cas, c'est l'ordre de grandeur hein, de Spirit. Alors on se méfie quand on enregistre une émission, parce que c'est vrai que ça peut cette nuit, demain, dans une semaine disparaître, parce qu'on sait que le robot est en fin de vie. Il avait été programmé pour durer 3 mois. Qu'est-ce qu'on retire aujourd'hui de ces 3 ans d'exploration sur Spirit ? Quel a été son parcours et ses découvertes ?
Alors, on a vraiment fini une histoire. Parce que, effectivement, au bout de 90 jours, Spirit n'avait encore vu que de la lave. Mais rapidement, on a vu au loin des collines qui font 100-150 mètres de long. Et donc, on a dit, bon, on va aller voir si c'est différent là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, on est immédiatement passé d'un monde géologique à l'autre. Dès qu'on est monté un petit peu sur ces collines, qu'on a baptisées Columbia, hein, du nom de la navette spatiale qui venait de disparaître, eh bien, on a découvert un monde totalement différent. C'est-à-dire que, apparemment, la coulée de lave qui avait recouvert le cratère Gusev avait épargné ces collines. Et là, on trouvait des roches beaucoup plus anciennes, peut-être même antérieures à l'écoulement, à la formation même des dépôts dont on a parlé, de l'écoulement fluvial, quelque chose de très 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 ancien. Et alors là, pour le coup, on a découvert des dizaines de roches, tout un zoo de roches, de sulfates, extrêmement étonnant. Et il faut surtout pas retenir, on le fait souvent, comme, malheureusement, parce qu'on raconte le début de l'histoire, mais à partir de, au bout de quelques mois, Spirit est rentré dans une autre exploration sur ces collines, et là a découvert vraiment une planète de Mars très ancienne, très énigmatique, avec des roches, des minéraux du type goethite, donc c'est des minerais de fer qui se forment normalement en présence d'eau, un indice qu'il y a eu de l'eau, des sulfates de calcium, de magnésium, tout plein de roches altérées. Et depuis donc plusieurs années maintenant, Spirit continue son enquête. Elle va bien et elle continue son enquête, une enquête très difficile parce que c'est un endroit très compliqué, très ancien. Pour résumer, on a le sentiment que c'est un endroit qui a connu autrefois de nombreuses explosions, peut-être ce sont des impacts, peut-être c'est une explosion volcanique, et avec en présence d'eau, et que ça a altéré les roches, et qu'on a toutes sortes de roches donc altérées par de l'eau liquide, mais aussi altérées par des explosions. Et Spirit est au milieu de tout ça, essaye d'enquêter. Alors on peut ajouter, donc ça c'est le côté scientifique, on peut ajouter sur Spirit, Spirit a escaladé ces collines. Elles font quand même 100 mètres de, plus de 100 mètres de haut. Elle est arrivée au sommet, carrément au sommet, et elle a fait des panoramas, je dois avouer, extraordinaires, des vues sur des plaines environnantes. Et c'est des choses, encore une fois, quand on connaissait ce qu'on savait de Mars avant, quelques plaines, vastes plaines mornes, entre guillemets, là on voit des paysages très lointains, et en particulier on voit même des choses qui bougent. Par exemple, du haut de ces collines, Spirit a vu passer... qui bougent, c'est pas des chameaux, hein. Qui bougent, ce sont des tourbillons de poussière. Et je dois avouer que c'est assez fascinant. Ils ont pris beaucoup d'images, alors on a presque fait un film, et on voit un film de la plaine de Mars avec tourbillons de poussière qui défilent. Et je crois qu'au-delà de la science passionnante que Spirit a récupérée, il faut, je pense, cesser de penser que Spirit n'a vu que de la lave, alors que l'autre, Opportunity, dont on parlera une autre fois peut-être, a découvert des choses extraordinaires. Non, Spirit maintenant a découvert des roches compliquées, extraordinaires, et aussi vu des paysages, des choses extraordinaires qui nous donnent une nouvelle idée. Alors où en est Spirit ? Spirit n'est pas sûr de mourir tout de suite, hein. Il est encore en forme, il y a encore régulièrement des bourrasques qui nettoient les panneaux solaires et qui lui permettent d'avoir un peu plus d'énergie. Alors ces derniers mois, Spirit n'a presque rien fait. Ces derniers mois, je veux dire toute la fin 2006, Spirit n'a presque rien fait parce que c'était l'hiver. Alors bon, c'est 15 degrés sud, donc c'est la latitude, je sais pas, c'est encore plus proche de l'équateur que l'île Maurice, mais c'est quand même l'hiver là-bas. Il y a un hiver, c'est-à-dire qu'il y a moins de rayonnement solaire. Il faut dire qu'en plus, l'orbite de Mars est excentrique, et donc c'est une saison, non seulement c'est l'hiver au niveau donc du rythme des saisons sur Mars, et en plus, Mars est un peu plus loin du Soleil que d'habitude, et donc Spirit n'a presque pu rien faire. On l'a mis comme ça sur le flanc d'une montagne, tourné vers le nord pour avoir le maximum de soleil, et pendant quasiment 7 mois, on a attendu. Et puis là, début décembre 2006, Spirit commence à redémarrer. Il est assez en forme, il y a quelque truc qui ne marche pas très bien, en particulier il y a une de ses roues, la roue avant droite, qui ne fonctionne plus, qui est bloquée. Elle est bloquée vraiment, c'est-à-dire qu'elle, non seulement le moteur ne fonctionne plus, mais en plus elle creuse un sillon quand Spirit se déplace. Mais à part ça, je pense que Spirit peut continuer très longtemps, parce qu'il n'y a pas de signe pour les organes les plus vitaux, il n'y a pas de signe de vieillissement. Donc l'enquête est à suivre, et tant mieux, parce que l'enquête n'est pas terminée, car c'est vraiment un endroit très compliqué, l'endroit où est Spirit.
La chance de Spirit, finalement, c'est de poser dans un endroit où il y avait une colline, et cette colline a permis de prendre de l'altitude. C'est un peu comme une île au-dessus de l'océan, dont on découvrirait que les bords de la plage, et en montant un petit peu en hauteur, on découvre tous les signes de l'activité passée. C'est un livre, en quelque sorte, que Spirit lit en montant la colline.
Tout à fait. Dans le passé, ça a dû être une île. On peut imaginer cette colline entourée par de la lave qui coule autour de l'île, et les anciennes roches sur cette colline ne sont pas recouvertes, et donc effectivement c'est en montant qu'on a pu remonter dans le passé grâce à ça. Oui.
Bon, merci François Forger, on va parler de Opportunity dans un second podcast. On remarquera que pour l'aventure de Spirit, ce n'est pas terminé. Et en tout cas, la longueur du parcours fait actuellement, c'est 6-7 km, je crois.
On est arrivé quasiment à 7 km.
Allez. 7 km alors qu'il était programmé pour atteindre quelques centaines de mètres.
90 jours, maximum quelques centaines de jours. Oui. Et je vous assure que les 7 km qu'a parcouru Spirit, ce sont des kilomètres de montagne, très difficile, c'est du GR. Hein.
Donc le nom du constructeur, c'est JPL, Jet Propulsion Laboratory, c'est pas Rover.
Voilà.
Merci François Forget, on se retrouve pour un second podcast consacré à Opportunity.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage.